Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à parler d'un personnage que vous connaissez, vous l'entrevoyez lorsque vous ouvrez votre Bible dans l'Ancien Testament. Et je pense qu'il est intéressant, non pas de suivre son exemple, mais de faire précisément, eh bien là, le contraire, et d'être des hommes forts par l'Esprit de Dieu, par notre foi, et de ne pas, en effet, dépasser ce qui nous a été échu et donné par le Seigneur, parce que c'est le cas d'un homme qui s'appelle Samson. Voilà. Et je pense que Samson est un personnage tout à fait hors du commun. Sa vie a été une vie assez particulière. Sa naissance a été prédite. C'est vrai. Un ange, ou pas n'importe lequel, l'ange de l'Éternel est venu voir Manoac, son père, pour lui dire que sa femme qui est stérile enfantera. Et ce fameux personnage dont nous allons parler, son nom, Samson, ça veut dire petit soleil. Ouais, petit soleil, mais quand on est un petit soleil, il ne faut pas se comparer au grand soleil. Et il s'est brûlé les ailes. Ça me fait penser, dans la mythologie grecque, à Icare, vous savez, qui a voulu toucher le soleil. Il s'est mis, je crois, de la cire sur ses ailes préfabriquées, on peut dire. Puis à un moment donné, plus il se rapprochait du soleil, la cire a fondu. Et il s'est retrouvé, finalement, et bien là, dans la chute. Et je crois que Samson, c'est ça. C'est ça, il ressemble à plusieurs égards à d'autres personnages dans la Bible qui ont bien commencé et qui avaient tous les dons, qui avaient reçu de Dieu toute... Eh bien là, l'équipement nécessaire pour devenir véritablement eh bien des hommes remarquables comme on en a connu, hein. Moïse, Abraham, l'apôtre Paul, et puis il y en a eu hein, comme ça, David par exemple, mais ils n'ont pas été exempts de fautes. Et on s'aperçoit que pour Samson, c'était véritablement une catastrophe. Moi, il me fait penser au roi Saül. Vous vous souvenez de Saül qui reçoit finalement eh bien de Dieu, il a reçu les dons, il prophétisait, il avait vraiment l'Esprit de Dieu qui était sur lui, mais quelle fin! Et Samson, eh bien, les choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions, eh bien, nous, ne pas vouloir être le soleil, on pourrait dire, hein, vouloir être Dieu, en pensant que, de toute façon, eh bien, puisque nous avons Dieu de notre côté, nous pouvons tout nous permettre. Et Samson s'est singularisé par des exploits surnaturels. Hein, c'était surnaturel, parce que quand il avait des... Il aimait bien les Philistins, vous comprenez? Il les a vaincus avec une mâchoire d'âne. Alors, en arme stratégique, c'est un petit peu limite, hein, quand même. Hein. Et il a délivré le peuple, il était juge, hein, Samson, et ses hauts faits guerriers nous sont rappelés, enfin bon. Et bon, il avait une force aussi herculéenne. D'ailleurs, les commentateurs bibliques l'ont appelé... c'était pour les Juifs l'Hercule des Grecs, en quelque sorte. Hercule, hein, quand on dit que quelqu'un, c'est un Hercule. Bon, on voit à peu près comment ça donne. Mais sa chute a été justement son orgueil. C'est terrible. C'est toujours, et ça commence toujours par là, son orgueil, orgueil de sa force et orgueil du privilège des dons que lui avait donné. Un don, c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est un don, c'est un cadeau. Mais c'est Dieu qui les donne. Et il avait reçu donc l'Esprit de Dieu et c'était quelque chose de tout à fait particulier. Alors, on va lire deux textes tout simples et après on fera le commentaire finalement de son histoire. On va défiler un petit peu avec les versets, on va rester bien dans les rails, hein, et puis on va voir un petit peu ce qu'il peut en ressortir. Alors, d'abord, Juges, chapitre 13, verset 24. Alors là, c'est tout simplement, eh bien... la grâce de Dieu qui lui est échue, quand il va naître, il va recevoir, eh bien, parmi tous les autres, un privilège particulier. Alors, juge, hein, chapitre 13, verset 24, je lis avec vous. Donc, la femme, c'est la mère hein, de Samson, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson, petit soleil, d'accord? L'enfant grandit, ça commence comme avec Jésus, vous vous rendez compte? L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et d'une bénédiction tout à fait singulière, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des Samson. dans la Bible. je veux dire, il y a des textes comme ça sur certains personnages, je vous l'ai dit, mais dès la naissance, il a été béni. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Alors, quand il est question de l'agiter, c'est commencer tout simplement à faire la démonstration que Dieu habitait en Samson. Il l'agita, et puis avec des situations géographiques, peu importe. Et puis, nous allons tourner une page maintenant, et nous allons voir dans Juges, chapitre 16, verset 4. Chapitre 16, verset 4. Alors, après tous ces hauts faits, sa situation glorieuse, on peut dire, il étonnait naturellement les Juifs, et puis il était la terreur des Philistins, et on comprend pourquoi. Et on va lire simplement encore un verset. Après cela, c'est ce que nous sommes en train de dire, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delila. Pas confondre, hein. Delila, d'accord, hein? Parce que moi ça m'arrive souvent de me tromper. Alors là, vous pouvez peut-être pas comprendre naturellement de qui il s'agit. Il aima une femme. Savez-vous combien de femmes il a aimées? Il était marié, hein? Il a été officiellement marié, enfin officiellement, façon de parler. Et puis après, sa femme l'a laissé pour aller avec un autre homme. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que je suis en train de raconter ce matin? Et après, il a papillonné, il a butiné un petit peu de tous les côtés. Mais ça ne dure qu'un temps. Parce que Delila est là. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Et il a aimé cette femme dans la vallée de Sorek. Nous assistons, et je pense qu'il est important que nous en prenions quelquefois le rappel, un processus de désintégration de la vie spirituelle. C'est terrible. Il est né avec l'Esprit de Dieu, je le dis tout de suite, il est mort avec l'Esprit de Dieu. Si vous connaissez l'histoire, il y a laissé sa peau, mais néanmoins l'Esprit de Dieu était là au moment où il est mort. Et entre eux, alors là c'est le vide, cette désintégration de sa vie, où on pourrait peut-être résumer de cette manière quand un croyant joue avec le feu. Puis des feux, il y en a autant qu'on veut. Nous sommes dans un monde de tentation, nous sommes dans un monde où tout brûle, et les dangers sont partout. Il faut faire attention naturellement. Et il lui manquait probablement, si on peut parler, il avait tous les dons de puissance, les dons que Dieu lui avait donnés, mais il lui manquait un fruit. Ah, c'est intéressant de le souligner parce qu'on peut avoir tous les dons et ne pas avoir les fruits. Ou alors, on peut avoir beaucoup de dons, on peut avoir la majorité des fruits, mais il peut en manquer un. Et ce manque dans le fruit dans la vie de Samson, c'était l'intempérance. C'était le manque de maîtrise de lui-même. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Vous savez ce que c'est que la maîtrise? C'est pas facile, hein? On est tous confrontés à ce genre de phénomène où on prend des bonnes résolutions, on fait des promesses au Seigneur et puis finalement on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus faible qu'on le pense. Et devant toutes sortes d'appétits, de sollicitations, de convoitises, on se dit, là, je tiens le coup. Ici, je tiens le coup. Mais par contre, il y a peut-être parfois quelques brèches dans notre vie où là, nous ne savons pas répondre oui ou non. Et quand on commence à répondre oui, on peut être embarqué très, très, très loin, naturellement. L'intempérance. Je reviens. Il aima Samson une femme dans la vallée de Sorek. C'est intéressant de voir, finalement, la signification de ce verset. Quel genre d'amour? La question, elle est là. Parce que, de toute façon, le péché, quelque part, c'est le reniement de l'amour de Dieu, de notre confiance et de notre obéissance au Seigneur. Et parce que nous pouvons aimer mille et une choses dans le monde, il y a des choses qui sont naturelles et légitimes, et c'est Dieu qui les veut, c'est Dieu qui nous les a données, pour que nous puissions en retour glorifier son nom, mais il y a des choses qui ne sont certainement pas propres, à glorifier le Seigneur, et qui sont potentiellement des bombes à retardement. C'est-à-dire que, quel genre d'amour? Il aima une femme. On connaît son nom, mais quel genre d'amour, tout simplement. Et c'était une femme qui habitait Sorek. Vous connaissez bien, Ça veut dire vigne. Et qui dit vigne, dit ivresse. Enfin, dit vin et ivresse. Il y a des sortes d'amour qui, quelque part, sont illégitimes, et qui deviennent une véritable ivresse. Et un homme ivre, il ne sait plus ce qu'il fait. Il n'a plus de raison. Il n'a plus de comportements normaux. Il n'a plus de sens et de bon sens. Il fait et il dit n'importe quoi. Et nous voyons que cette femme était à Sorek. Et on peut dire ivresse, tout simplement. Elle était elle-même de l'ivraie. Bon. Et puis, au verset 5, on va le lire ensemble. On va prendre les choses comme ça, c'est plus simple. Les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, flatte-le. Tiens. Pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. Une petite fortune. Je peux vous dire que les Philistins, ils voulaient vraiment la tête de Samson, hein. Ça, c'est clair, hein. Et nous voyons que cette femme vénale est tombée dans le piège, tout simplement de la flatterie et de la cupidité. Vous savez, un péché, il n'est pas seul. Il y a toujours des prémices, il y a toujours une avant-garde qui fait que c'est pas directement le péché principal, mais au départ, il y a toutes sortes de choses qui sont sur notre route. Et puis, voilà, nous te donnerons, et bien tout simplement. Vous savez, ça nous rappelle Judas, hein, avec le Sanhédrin, vous savez, les prêtres de Jérusalem. Nous te donnerons 30 pièces d'argent. Chiche. Simon, il a tendu la main, et puis, mais quand il s'est réveillé, c'était quelque chose de terrible. Il avait livré Jésus, tout simplement. Et on se retrouve un peu dans le même cas de figure avec Delila. Et la vénalité, la cupidité. Faisons attention parce que l'argent peut être un excellent serviteur, mais c'est un mauvais maître. Hein, si c'est lui qui domine. Et ça, c'est vrai dans notre monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous observons que, si vous regardez, si vous voyez un petit peu autour de vous, tout tourne autour de l'argent. Oui. Hein? Rien n'est fait, rien n'est construit, rien n'est bâti, on le voit en politique, en économie, en toutes sortes de choses. Et dans la vie quotidienne, finalement, de ce que nous sommes, nous, citoyens, et tout est bâti, finalement, la raison principale, c'est le dieu Mammon. Ça, c'est clair. On est à même de pouvoir en juger. Mais ça a toujours été, hein. C'est pas seulement notre 21e siècle, mais je pense que, dans les derniers temps, l'argent va devenir le dieu des dieux. Hein, d'une manière tellement importante. Alors nous te donnerons. Et puis voilà que, au verset 6, Delila dit à Samson, elle est revenue vers lui, où ils se sont rencontrés tout à nouveau, et elle va lui poser la question à brûle-pourpoint, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter ?» Elle y va franco, hein. Voilà. Elle lui dit tout. Mais, excusez-moi, mais Samson, c'est un bêta. Ah oui. Bon, qu'elle lui dise, dis-moi comment tu es fort et qu'est-ce qui fait que tu as force. Et puis en plus, avide le sac complètement en disant, mais dis-moi pour que finalement, il faudrait pour te lier et te dompter. Mais quand même, pour un homme qui a l'esprit, pour un homme qui a été mis à part, un homme qui était parmi cette classe en Israël qu'on appelait le Naziréa, et qui avait finalement une ligne de vie très épurée. Enfin voilà, c'était sa consécration. Dieu l'avait consacré et il devait s'en tenir. Il était juge. Et je crois que quelque part, les choses sont dites. Il y a là en quelque sorte un interrogatoire doux et tout simplement traître. Oui, vraiment. Hein, fallait qu'il l'aime pour se laisser faire à ce point. Il a même pas eu un soupçon que cette femme, elle était, premièrement, elle était malsaine, et qu'en plus, elle était déjà à la merci et à la solde, finalement, de ses ennemis. Hein. Donc, un interrogatoire commence. « Dis-moi. » Eh oui, on peut pas dire tout. Hein. On peut pas tout dire. Quelquefois, on croit connaître des gens, mais on les connaît pas. Mais parce qu'on aime, on est prêt à tout vendre, hein. On est prêt à tout donner, hein. Hey, on l'a dit dernièrement, hein. Vous savez, le sentiment. Ouais. Eh oui. Faut faire attention. Dis-moi comment faut faire. Dis-moi quelle est l'origine de ta force. Et le problème chez Samson, c'est qu'il ne s'aperçoit de rien. Il est déjà anesthésié, hein. Il est déjà dans une forme de, il a pris un soporifique certainement. Et il accepte le contact. C'est-à-dire qu'il va dialoguer. Et déjà, le dialogue, c'est un rapprochement. Quand on commence à vouloir parler. Vous souvenez de Néhémie qui était un autre homme, quand là ses ennemis, Gershem l'Arabe et puis Tobija et Sanballa, ils voulaient faire descendre dans la vallée d'Ono. Hein, chapitre 6, livre de Néhémie. Et ils ont dit, mais on va discuter avec toi. Il a dit, tiens, pas question. Hein. Moi, je vous connais, je sais, vous voulez arrêter l'œuvre de Dieu et vous voulez me discréditer, pas question, je ne parle pas avec vous. Eh bien, Samson, lui, parle avec cette femme parce que, bon, son cœur est en train de pencher dangereusement et nous voyons que ça augure déjà les perspectives de la chute de Samson. Et avec des gens, il y a des gens, il ne faut pas rentrer en contact parce que, bon, on le sent quelque part. Hein. C'est pas qu'il faut soupçonner tout, c'est pas qu'il faut, eh bien, là, supputer des choses, mais quelquefois, on sait très bien, et surtout dans le domaine du monde, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas saints. Pas saints, S-A-I-N, sur le plan moral et tout ça. Et peut-être voudrait-il se faire des amis avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu. C'est pas pour ça que on doit pas se séparer du monde, ça c'est clair. Mais l'esprit qui est en nous, quelquefois, parle fort et nous dit attention. Attention, il y a quelque chose, un danger que tu ne peux pas soupçonner, mais on n'en sait pas plus quelquefois. Mais, eh bien lui, il va discuter tout simplement. Alors on va voir de quoi il s'agit, parce que la question est posée. Samson lui dit, donc dialogue. Hein, voilà, c'était pas seulement un dialogue sensuel, mais un dialogue où là, les choses vont devenir sérieuses. Hein. Alors, Samson lui dit, si, condition, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai un autre homme. Ben, c'est quand même terrible de bien commencer pour être un autre homme faible. Ben oui, le roi Saül, c'est ce qui s'est passé. Reçu les dons de Dieu et après, quel épouvantable personnage le roi. Et il a été roi, Saül, pendant 40 ans. Imaginez-vous les administrer. Hein. Il doit être content d'avoir un roi comme ça. Hein. Ah, ils en ont vu de toutes les couleurs. Et lui, il va donner, mais c'est un contresens tout ça. Hein, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme, c'est-à-dire comme le commun des mortels. Parce que lui, il n'était pas comme le commun des mortels. Il avait l'esprit de Dieu, il avait une force extraordinaire qui lui avait été donnée. Non pas pour qu'il puisse lui-même dire, écoutez, regardez mes biceps, c'est pas ça. C'était pour remplir sa vocation, parce que c'est une affaire de vocation, on va en parler d'ici quelques instants. Il y a des hommes et des femmes qui ont des vocations dans l'Église. Il y a des hommes et des femmes qui ont été appelés par le ministère et qui chutent. Et ça, faut le savoir. Et là, à ce moment-là, c'est quand même dommage. Je ne veux pas dire que ces gens sont perdus, mais toute leur existence sur la terre, ce pourquoi ils avaient été mis de côté, c'est fini. Je peux vous dire, en 40 ans de ministère, on en a vu dégringoler quelques-uns. Et c'est terrible. C'est terrible. Alors, je serai comme un autre homme, il nous est dit. Je poursuis, les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle, pas les autres, hein, elle, c'était lui qu'elle voulait, c'était elle qui était le plus rapproché, elle le lia avec ses cordes. C'est intéressant de savoir, des cordes fraîches. Oui. Dans un autre texte fait par un commentaire biblique, il nous est dit que c'est encore plus solide que des cordes fraîches et des cordes sèches. C'était un entremêlat, c'était des cordes faites avec des boyaux de bœuf. Et puis également une autre matière. C'est-à-dire que tresser, c'était quelque chose qui était finalement, on ne pouvait pas s'en détacher. Ce n'était pas possible. Donc, on s'aperçoit que les Philistins avaient bien pensé à la chose. On le tient, on le prend, mais maintenant il pourra même plus, quand il sera pris, il pourra même plus bouger. Hein, corde fraîche. Et ça se fait d'une manière tellement simple, subrepticement. Il s'en aperçoit pas, tout simplement. Et vous allez voir la stratégie pour l'endormir. Voilà, l'endormir d'une manière sournoise. Et voici le premier essai, et tout va bien. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle ou derrière chez elle, dans une chambre, ou chez elle. Elle lui dit, « Les Philistiens sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes, comme seront un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Ah, voilà, on a commencé maintenant et bien rentrer dans les renseignements. Premier essai, ça fonctionne pas. Et Samson se dit, moi je me serais pas laissé faire deux fois. Bon, enfin bon, ma situation ne se présente pas comme ça, je vous prie de le croire. Je connais Dalida, mais je connais pas Delila. Mais toujours est-il que ça se fait, et tout va bien, qu'il a dû dire. Oh, regardez, je suis drôlement fort, moi je suis Hercule, hein. Ça c'est sûr, hein. Tout va bien. Maintenant, les choses vont se compliquer un petit peu, parce que si ça ne marche pas du premier coup et subitement, ça va se faire avec le temps. Parce que vous savez, je voudrais quand même vous dire une chose. Notre tête est mise à prix pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre position et quelle que soit notre fonction, hein, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous appartenons à Jésus-Christ, hein. Le diable est résolu de nous faire tomber ou de nous faire perdre notre salut. Ouais. Et je pense que on ne prend pas finalement des mouches avec du vinaigre, hein, c'est ce que le proverbe dit. Mais toujours est-il que c'est toujours comme des vaguelettes, vous savez, comme au bord de la mer. Ça vient, ça revient, et ça revient encore, etc., etc. Et à un moment donné, il n'y a plus la mer, elle est vidée, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Et on voit que le but du diable, c'est quand il ne peut pas voir tout de suite ce qu'il veut, il a de la suite dans les idées, il va dire, eh ben, on va mettre le temps. Parce que lui, il a son temps, nous, on ne l'a pas. Hein, on n'est pas maître de notre temps, mais lui, il l'a, hein, ça c'est clair. Et c'est là où l'amusement, parce que ça peut être présenté de cette manière. Hein. Delila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Elle n'est pas contente, hein, parce qu'elle pensait que ça marchait tout de suite. Hein. Elle avait besoin de toucher sa paye, hein, vous comprenez, hein, c'était la fin du mois. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Pourtant, ils avaient mis le paquet, hein, corde fraîche. Et puis, je vous ai donné un peu une autre définition, hein, que ça pouvait être, eh bien là, un entremêlat, une tresse, avec plus, qui est encore plus solide. Que du chanvre ou du lin, je ne sais plus. Avec quoi il faut te lier, tout simplement. C'est là où je l'ai dit tout à l'heure, l'amusement anodin, ce qui semble ridicule, ce qui semble rien du tout, devient jeu de malin, jeu de vilain. Vous connaissez vos classiques, hein. Ça c'est bien. Enveloppé de mensonges, c'est-à-dire qu'il y a un secret à découvrir, pour arriver au but, c'est-à-dire neutraliser, vaincre Samson. Secret à découvrir. Et là, nous voyons les faiblesses de Samson qui commencent à apparaître. Elle va dire, Delila, mais indique-moi. Je te l'ai déjà demandé une fois, indique-moi. Et c'est une subtile enquête parce que, finalement, eh bien, elle va aller encore plus loin. Alors, on continue à lire. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, donc voilà, il y avait déjà cordes, hein, qui étaient fraîches. Là, ce sont des cordes neuves dont on se soit jamais servi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'usure. Hein. Il dit, je deviendrai faible comme je serai et je serai comme un autre homme. Il insiste, hein, le pauvre. Hein. Et vraiment, faut qu'il l'aime, hein, Delila. Hein. Faut vraiment qu'il ait du sable dans les yeux, hein, pour pas voir le stratagème. Hein. Ça, c'est fou une chose de cette manière. Hein. Alors, corde neuve, je serai faible. Voilà, tout simplement. Delila prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Et lui, se fait faire. Tout à l'heure, je vous ai dit bêta, hein. Franchement. Vous vous rendez compte? Moi, je me laisserais pas faire si c'était mon épouse qui me faisait ça. Ah, pas du tout. Moi, je pars, je saute par la fenêtre et je cours, hein. Ouais, messieurs, faites attention, hein. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson! Or, ces gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil de l'étoupe, les cordes qu'il avait au bras, tout simplement. Deuxième tentative, rien à craindre, aucun problème, le premier, paf, ça passe. Le deuxième fois, rien à craindre, et ça démontre, à l'évidence confirmée, l'orgueil de la présomption, quand on a reçu les dons de Dieu. Des dons vocaux, d'inspiration, des dons de puissance, alors là je vous dis pas parce que c'est le nec plus ultra, hein. Ou alors des dons de révélation. Et là, faut faire attention, parce que c'est là où le diable nous attend. Parce que faut toujours penser que les dons, c'est Dieu qui les donne, et ça ne me donne pas d'être supérieur aux autres. Et on a vu beaucoup, je vous le dis, hein, beaucoup, pasteurs y compris, avec des dons extraordinaires, des choses extraordinaires, ça ne les a pas empêchés, quelquefois, de marcher à côté du chemin. Ah oui. Parce que plus nous recevons, plus nous sommes la visée du diable, et plus nous sommes menacés. Alors peut-être certains d'entre vous en disant surtout, Seigneur, tu me donnes rien, je suis tranquille. C'est pas ça. C'est un exercice de foi, que quand vous avez reçu, tenez la route. Et pour tenir la route, comptez pas sur vous, hein. Et attention à la flatterie des autres. Ah là là. Ce frère, cette sœur, il fait des prophéties, des dons, etc. Formidable. Ce pasteur, il prêche d'une manière tellement remarquable. Après le culte, pendant 2 heures, on est bouche bée. Non, non. C'est le problème de Samson. L'orgueil de la force. Alors, au verset 13, Delila dit à Samson, parce que vous savez, le dialogue, il est engagé. Maintenant, il s'arrête plus, hein. Parce que c'est un dialogue, hein, on le voit bien. « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Ah, on va un peu plus loin. Il y a les cordes qui vont servir. C'était déjà le premier abord. Il fallait les cordes d'abord, hein, pour pas qu'ils bougent. Mais après, il fallait aussi trouver un autre secret. Pourquoi il était si fort? Ben pourquoi il était si fort? Elle revient à la charge, elle lui dit pas « dis-moi, mais déclare-moi maintenant » d'une manière tellement solennelle. Maintenant, c'est bon, hein, je commence à perdre mes nerfs, hein, Samson. Hein. L'insistance subtilement se fait jour, ça se fait d'une manière tellement subtile, le danger se rapproche sans que Samson le voie arriver. On dit ça, il est passé à table. Enfin, c'est un milieu assez mal fréquenté quand on dit que quelqu'un passe à table. Hein, ça ressemble au milieu, tout ça. Hein. Voilà. Alors, il ne voit pas arriver. Ici, Samson livre presque son secret. Il le livre presque. Mais il manque. Mais les éléments vont se faire. Pièce après pièce, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et il va dire à Delila, tu n'as qu'à tisser, maîtresse, les couper. Il y en a 7. Tiens, c'est curieux. 7, c'est quand même le chiffre de la perfection. Eh oui, je le souligne au passage, parce que bon, en principe, hein, on aurait peut-être eu des doutes s'il en avait eu 5 tresses. Ou... Non, mais c'est 7, hein. Il y a quand même une marque très forte. Hein. Samson frôle le précipice à ce moment-là, et il ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose de vertigineux sous ses pieds. Hein. Et le verset 14 nous renseigne encore un davantage, et elle les fixa par une cheville, c'est-à-dire qu'elle a fait de cette 7 tresses, elle a fait un gros, voilà, pour couper tout en même temps, vous comprenez? Et elle les a fixés avec bon un lien, quelque chose comme ça. Puis elle lui dit, toujours le même refrain, elle n'a pas changé, elle n'a pas varié, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Toujours le même cri. Hein. Et il se réveilla de son sommeil, parce qu'il dormait. Bah oui, parce qu'elle l'avait pris un petit peu pour le bercer. Voilà, il avait fermé les yeux doucement. Et il était au paradis, là. Hein. Et il va voir que le paradis, c'est autre chose. Hein. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. « Ça marche encore !» Ça va encore, ça passe, tant que ça passe, eh bien on peut y aller, il n'y a pas de problème. Samson donc est en grand danger. Le verset 14, nous venons de le lire. Vous savez, plaisanter avec le mal, parce que les choses sont si légères pour Samson, ressemble à l'oiseau qui se jette directement et d'une manière aveugle dans le filet. Hein. Il y va, franco. Parce qu'il est aveuglé par sa passion. Il aima une femme. Alors, il y a différentes formes d'amour. Mais l'amour de la passion ne va jamais très longtemps. À un moment donné, ça casse. Et puis, le texte nous rapporte que Samson se réveille à ce moment-là. Et avec ce qui lui est dit, les Philistins sont là. Hein, et il se détache une ultime fois, une dernière fois. Et là, ça va être l'aveuglement à jamais. Hein. C'est irrémédiable. Il n'y a pas de marche arrière. Hein. On va encore un peu plus loin. Comment peux-tu dire je t'aime? Ah, bah oui, parce qu'il faut que le pigeon se laisse faire, il se laisse plumer, vous comprenez? Comment, Samson, tu me dis je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi et tu n'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Mais c'est sans compter sur la ténacité de l'adversaire, parce que elle, c'est pas Samson qui l'a fait gamberger de Lila. C'est l'argent qu'on lui a promis, parce qu'apparemment ça a l'air une petite fortune, hein, qui finit toujours pour avoir raison, cette ténacité de l'adversaire finit toujours pour avoir raison des imprudents, alors attention, finalement, parce que c'est un chantage assassin. Oui. Comment peux-tu me dire je t'aime? Ouais, quand on aime passionnément, quand on aime aveuglément, ben ça fait basculer, voilà, je t'aime. Et parce que je t'aime, que tu me dis que tu m'aimes, alors à ce moment-là, si tu m'aimes, bah donne-moi tout, et puis voilà, tout simplement. Tu dois céder à toutes mes insistances. Et là, à ce moment-là, nous voyons que le cœur de Samson craque. Ouais, parce que ça vient de là, hein, quelque part. Le cœur craque et la volonté s'effondre, tout simplement. Et c'est le poignard du sentiment. Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a le sentiment charnel, et ça je crois qu'on est en plein dedans dans notre affaire, et puis il y a le sentiment qui est spirituel, qui est inspiré par l'esprit. Alors là, on tient ferme, devant le mal, devant le péché, devant toutes les propositions, naturellement. Et vous savez, l'avertissement est solennel, parce que bon, on parle de Samson, c'est un, comment dire, Samson, c'est un homme vénal, enfin pas vénal, mais un homme sensuel, hein, il aime les femmes, tout simplement. Il y a un mot que j'ai retrouvé dans le dictionnaire, on appelle ça un gourgandin. Vous connaissiez? Voilà, celui qui court les filles. Hein? Mais, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose, parce que là, on parle de quelque chose tout simplement banalement et tristement charnel. Mais il y a des situations, c'est pas une question charnelle, en apparence c'est charnel quand même, mais c'est encore beaucoup plus grave. Écoutez, parce que là on peut perdre sa vocation, on peut perdre même son salut, c'est terrible. Dans Deutéronome, chapitre 13 et verset 6 à 8, il est dit, « Si ton frère, si ta mère, si ton fils, si ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, » Alors, je dirais, ça vaut pour un homme comme pour une femme, hein, parce que là, il est question d'un homme, hein, mais d'un homme, mais ça peut être aussi, finalement, eh bien, la victime, ça peut être aussi une femme. Hein. En disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi et loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, et tu ne, voilà, jetteras pas un regard d'attention et sur lui, etc., etc. Mes frères et sœurs, ça va beaucoup plus loin que l'histoire de Samson. Les tentations sensuelles, les tentations charnelles, etc. Que, parce qu'on reste que des hommes, hein. Faut pas faire d'illusion, hein. On reste que des hommes. Mais il y a des choses qui ont encore une autre dimension différente et encore peut-être plus grave. Et ça, on n'y fait pas trop attention parce que on a fait la chasse, vraiment farouche à tout ce qui était adultère, etc., etc., hein, et puis tout ce qui va avec. Mais quelquefois, il y a des péchés, comme Jésus les dénoncera chez les pharisiens. L'hypocrisie, le mensonge, double visage, double langage, hein, à travers l'incrédulité, toutes sortes de choses. L'idolâtrie. Eh oui, ça peut exister, parce que si ça n'existait pas, Jean n'aurait pas dit à la fin de son épître, en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Le mysticisme, le légalisme, et puis tout ce qui va en isme. Et vous savez, je le dis à chaque fois, les ismes, c'est une langue de terre qui va nulle part. Faut faire attention. Faut faire attention. Et là, faut être beaucoup plus sévère par rapport à ça que de montrer du doigt en disant « Bah oui, mais il a trompé sa femme, elle a trompé son mari, etc. » Bon, ça fait partie des péchés qui sont parmi les autres. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Et moi, notre Delila, elle avait de la suite dans les idées, hein, je peux vous le dire. Alors, le verset 16, pour nous dire un petit peu plus loin. Ah, comment tu peux me dire? Tu t'es joué de moi, tu me dis que tu m'aimes, mais tu me donnes pas ce que normal, en rapport avec ton amour. Hein. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Pauvre Delila, pauvre Delila. Elle s'est impatientée. L'arme fatale et silencieuse de la répétition. L'insistance finit par le tourment insupportable où on est prêt à tout et par deux fois, c'est elle qui dit, tu m'as dit des mensonges. Delila dit à Samson, tu m'as dit des mensonges. Et pourtant, on le voit avancer, il livre presque son secret, pièce par pièce. C'est un pulse. Tu dis des mensonges. Et là, moi, je trouve que ça fait fort. Hein. C'est quand même fort. Hein. Parce que c'est Delila qui ment et accuse Samson de mentir. C'est là où Samson n'a plus la raison même. Il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne discerne pas derrière que finalement c'est un coup monté, c'est quelque chose d'odieux ce qui lui arrive. Eh oui. Faisons attention que notre niveau et notre visibilité spirituelle ne baissent pas au point où on ne sache plus reconnaître notre droite de notre gauche. C'est ce qui se passe, hein, pour le brave. Là. C'est le renversement des rôles. C'est alors le point d'exaspération qui écroule les dernières résistances de Samson avant que la digue cède, tout simplement. Voilà, le trou est fait, il a été percé, il a été agrandi. À un moment donné, il devient béant, et à un moment donné, c'est le flot qui va emporter tout simplement la Samson. Il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais tout comme un autre homme. Ça fait 3 fois qu'il répète la chose. Dites donc, hein, il en veut. Hein. Il doit finalement aimer Dalila. Hein. Mais bon. Ainsi l'âme de Samson s'impatiente, et elle aussi naturellement, et il vend. Il livre son cœur, un cœur en reddition, fait dire aux lèvres, parce que ça passe là aussi, c'est le vecteur, ce qu'il ne faudrait jamais dire. Eh oui, il y a des choses, il faut les garder pour nous. Et je voudrais vous dire, on livre à la mort la vie de l'esprit de Samson. C'est encore beaucoup plus grave que son corps, on va le voir d'ici quelques instants, mais c'est la vie de l'esprit. Le champ a été tranquillement, paisiblement semencé de bons grains par le Seigneur, et maintenant, quand on constate, on s'aperçoit qu'il y a le livret. Et le livret est partout, et le livret va étouffer finalement la vie spirituelle. Et plus ne retient le poison et ses pernicieuses conséquences, parce que il va tomber, mais après il va falloir payer la facture de tout ça, hein. Ça c'est clair, et c'est sur sa personne. Et pourtant, ce temps de drame était prévisible, naturellement, parce qu'au verset 18, Delila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, là on le tient, hein. Car il m'a ouvert tout son cœur, et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous vous rendez compte? Ouais, ils lui ont pas fait un chèque provisionné pour qu'elle le touche 8 jours après. Ils avaient déjà l'argent. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Judas, avec Jésus. Hein, ce qu'on peut mettre en parallèle, plus ou moins, naturellement. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux, parce que là, on va voir l'opération, hein, l'intervention chirurgicale. Hein. Elle l'endormit sur ses genoux, mon petit Samson, on va s'imaginer un peu, il était fort et grand, hein, donc si elle avait sur genoux, j'espère qu'elle était pas quand même toute petite, hein, parce que, mais en lui faisant des caresses, enfin toutes sortes de choses, en lui disant je t'aime, et c'est formidable, tu es le plus merveilleux, tu es le plus beau, le plus grand, voilà, donc, et ayant appelé un homme, rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, elle a commencé. Et il perdit sa force, et puis après on va voir un peu ce qui se passe. Elle l'endormit, donc, on l'a vu. Rêve, bientôt qu'il va se terminer en cauchemar. Quand il va se réveiller, il va voir autre chose, hein. Et quelquefois, Dieu permet que, dans nos divagations, nos pensées, ce qui nous fait plaisir, ce qui nourrit notre chair, à un moment donné, parce que Dieu nous aime, eh bien, il va nous réveiller. Et là, on va voir un peu les conséquences. Parce que tant qu'on est complètement dans cette ivresse, eh bien, on voit rien, mais le cauchemar va commencer. Et quelquefois, à travers le cauchemar, Dieu va nous délivrer. C'est curieux, ça, hein? On aimerait que tout se passe tellement bien, mais bon, on est quelquefois tout simplement les artisans de notre propre chute. Hein. Il y a ces fameuses caresses, mieux qu'un imovane ou un somnifère. Voilà, hein? Mieux que cela, sentiments, la pensée, les appétits, les déserts, en forme de rêve, eh bien, qui nous ravissent, mais il faut savoir que quand on est à ce point-là, comme Samson, le péché sera toujours plus fort. Ça, c'est clair, hein. Et le péché, il nous dompte. C'est pas seulement Delila, pas seulement les Philistins. Et tout simplement, eh bien, il nous dépouille. Et quand on lui ouvre la porte, eh bien, on s'aperçoit des réalités qu'il y a derrière. Si tu avais voulu apprendre la leçon plus tôt, tu n'en serais pas là aujourd'hui. C'est ce que Dieu pourrait nous dire. Quelquefois, eh bien, nous avons fait des expériences. Ensuite vient ce réveil douloureux qui fait encore croire qu'on s'en tirera, comme les autres fois. Le texte, il est là, hein, comme les autres fois. C'était dit, ben voilà, on va pouvoir... Mais c'est le cas aussi de Pierre, parce que Pierre, c'était un téméraire. Il était toujours en premier. Il avançait des choses, il disait des choses, et Jésus était obligé de le recadrer, jusqu'au jour où il a pleuré, et que là, quand il a pleuré parce qu'il avait trahi Jésus, eh bien, il avait renié Jésus particulièrement, ses pleurs avaient son cœur à ce moment-là. Et il a vu, hein, c'était quelque chose. Et Thomas, c'était la même chose, hein. Mon Seigneur et mon Dieu, quand il a eu les yeux ouverts. Mais la réalité était toute autre. Comme les autres fois, Samson pensait qu'il allait s'en tirer, mais qu'est-ce qu'il nous a dit après? Il ne savait pas, ou il ne savait plus que l'Éternel s'était retiré de lui. Terrible. C'est une drôle d'histoire quand même. retirée de lui. La descente est inexorable dans une nuit qui est toujours plus noire. Verset 21, il est dit ceci. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec une chaîne d'airain. Alors là, c'est pas sèche ou fraîche, mais c'est une chaîne d'airain, et ils tournaient la meule dans la prison, tout simplement. Ils lui ont crevé les yeux, d'abord. Ensuite, ils l'ont fait descendre à Gaza. Et vous savez ce que ça veut dire, Gaza ? Lieu fortifié. Ça veut dire prison, tout simplement, dont on ne sort pas. Quand on est rentré, on ne peut plus en sortir. Et c'est ce qui se passe. Il avait perdu sa liberté. Il avait perdu sa force. Il avait perdu son statut d'homme de Dieu, tout simplement. Jean nous dit, si vous vous livrez au péché, vous êtes l'esclave du péché. Dans Jean, chapitre 8, et verset 34. Finalement, Samson finit dans des conditions épouvantables. Il n'est plus tout seul. Il est vide. Il est sans but, parce que maintenant son passé, c'est ce qu'il avait, mais il l'a perdu. Il est sans joie. Et il tournait la meule dans la prison. La conclusion est la suivante, elle est très simple. C'est Paul qui nous lit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ah oui, c'est ça la conclusion. Moi, il me fait penser, c'est une comparaison que l'on peut faire de rapprochement. Il me fait penser, Samson, au possédé de Gadara qui brise les liens et les chaînes et que personne ne pouvait le dompter. Et il était sous l'impulsion d'une légion de démons. Parce qu'à un moment donné, le diable, il est toujours à vouloir nous assaillir, mais il est dehors. Et à partir du moment où on l'a laissé rentrer comme Samson, ça c'est une autre affaire. Mais à la différence du possédé de Gadara, eh bien ce qui s'est passé, c'est que c'est Jésus qui l'a délivré. Et là, il est revenu dans son bon sens, habillé, vêtu, dans un état normal. Alors que Samson, il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Le roi Saül, dont nous parlions tout à l'heure, c'était un orgueil de position. À partir du moment où il est devenu roi, il a dit maintenant, ça y est, moi je suis Dieu. Il n'y a pas de problème. Samson, on trouve chez lui du bon et du mauvais. Parce que c'est vrai qu'il a eu aussi une trajectoire. On trouve des choses qui sont véridiques et on le voit menteur aussi. Et puis, on le connaît vertueux au début de sa vie, et il devient sensuel à la fin. Il est capable de voir le bien, mais il est incapable de le faire. C'est ça le problème de l'aveuglement. Et ça, c'est terrible. C'est la leçon que nous pouvons en tirer. Parce qu'il y a un exemple de cohabitation de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a l'homme nouveau, et il y a l'homme charnel. Il y a le vieil homme qui est là, et ils se battent. C'est dans la mesure où je me laisse sanctifier, je vais le répéter parce que c'est la conclusion, c'est dans la mesure où je me laisse sanctifier, malgré mes chutes, malgré les tentations auxquelles je cède, malgré toutes sortes de choses, mais je reviens toujours vers le Seigneur, je lui demande pardon, et peu à peu, à un moment donné, il y a une vie nouvelle qui se fait en nous. Mais à partir du moment où je me laisse caresser ou je caresse, alors là, le danger est tout autre. Et je dis bien que c'est dans la mesure où un chrétien, un enfant de Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit sa place, sa position, sa vocation, l'appel que Dieu lui a donné, eh bien, à partir du moment où je me laisse sanctifier par l'Esprit de Dieu qui est en moi, la présence de Christ à l'intérieur de moi, eh bien, que je lui remets complètement et totalement ma vie, que je peux échapper à ma double nature. À ma double nature. Je le répète, à ma double nature. On est loin d'être des saints. Le Seigneur nous a pris, là, dans l'état où on était, il nous amène petit à petit, finalement, dans une dimension de sanctification, de régénération. Mais à un moment donné, quand les portes sont ouvertes dans l'autre sens, eh bien, on fait marche arrière. Tout simplement. Il n'y a pas de condamnation, Parce que quelquefois, nous chutons. Non. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes en Jésus-Christ. Mais néanmoins, tout dépend après si c'est des chutes, tout simplement, on pourrait dire, occasionnelles, ou si c'est un état. Et chez Samson, c'est véritablement tomber un état. Mais c'est bien ce que Paul nous enseigne dans Romains chapitre 7. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Je pense bien, mais finalement, eh bien, ça se traduit par des actions qui sont mauvaises. Et c'est une dualité, c'est un combat. Mais Samson les a eu tout cela. Et nous, nous les avons encore, des siècles et des siècles après. Et tant que nous serons sur la terre, mes frères et sœurs, il y aura ce combat, cette dualité. Il y aura cette opposition entre la vie de l'esprit et la vie de la chair. Croyez bien qu'on n'en a pas fini encore, Et quelquefois, on se dit, avec l'âge, etc., etc., voilà. Ben, c'est vrai qu'il y a l'impulsion de la jeunesse, hein. Ça, c'est certain que, quelquefois, l'ignorance, la méconnaissance de l'existence et des expériences de la vie. Mais, on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu nous a donné sa grâce. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés. Il a donné Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il nous a baptisés du Saint-Esprit. Il nous a donné des dons spirituels et toutes sortes de choses. Mais n'oublions pas qu'il faut les fruits, hein. Parce que s'il n'y a pas les fruits, ben, on finit comme Samson. Fini aveugle. Quand je veux faire le bien. Et je trouve une double loi à moi-même. Il y a cette loi supérieure dans mon être intérieur, et puis il y a cette loi qui m'attire de l'autre côté avec des vents violents, et je ne sais plus du tout où j'en suis. Nos liens tissés sur le temps, faiblesse, des petits compromis et toutes sortes de choses, ne sont pas uniquement d'ordre sensuel. Je tiens à le dire, on a fait grand bruit par rapport à tout ça. On a fait grand bruit. Mais aussi d'autres faiblesses d'origine et de nature différentes qui ne se voient pas. Ça ne va pas forcément faire un scandale, mais quelque part, ça peut nous amener aussi très loin. Ce sont les causes de déraillement. Hein, on parle ferroviaire, là. Mais aussi, tout simplement, eh bien, les sorties de route. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Sorties de route spirituelles, morales, et puis des dérapages sur un terrain glissant. On le sait, tout ça. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Quelquefois, il peut y avoir un don spirituel pour nous dire, bon, attention, hein, c'est le chemin est glissant. Mais même dans les dons spirituels, même quand on est averti, le Seigneur nous avertit non pas pour qu'on chute, mais pour que finalement, eh bien, on compte sur lui. C'est lui. On n'est pas capable de rien pour nous-mêmes, tout simplement. Alors, dans Pierre, et ce sera le dernier verset, il est dit cette parole qui résume un peu la vie de Samson. 2 Pierre chapitre 2 et verset 19, il est dit cette parole tout simplement en parlant de tous ceux qui sont un petit peu là avec des discours enflés de vanité, bah ça c'était un petit peu Delilah, hein. Verset 18, hein, 2 Pierre chapitre 2 verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dérèglements, ceux qui vivent à peine qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Alors ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous donne sa grâce. C'est pas hein, une remontrance. C'est simplement pour nous dire que si des hommes comme choisis, comme Samson, ont pu dégringoler, c'est qu'ils ont laissé des brèches et que ben voilà, le mal s'est engouffré. Et puis une chose qu'il faut savoir, le diable, il veut nous faire tomber les uns et les autres. C'est pas Dieu qui nous fait tomber, hein. Mais il veut notre tête. Et à travers ça, eh bien nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. C'est sa force, c'est son esprit, hein. Et je crois que ben, le Seigneur va le faire, parce que s'il nous a appelés, c'est pas pour nous perdre, au contraire. Mais c'est à lui, c'est à nous finalement de lui dire, eh bien écoute Seigneur, tu connais ma fragilité. Et je le rappelle une dernière fois, Samson, il a fait un excès de force. Voilà, il croyait être fort. Et c'est parce qu'il croyait qu'il était fort, qu'il était au-dessus de tout, qu'il allait finalement eh bien gagner, prendre le dessus. Eh bien non, si on vient devant le Seigneur en disant, même si on a des années de conversion, mais on vient en disant, Seigneur, je me sens tellement faible, eh bien vaut mieux avoir ce discours-là que d'avoir le discours en disant, regardez, je suis le meilleur, je suis le plus beau, et là, ça se passe mal. Que Dieu nous donne de ressembler à Jésus, qui était doux et humble de cœur. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que l'histoire de Samson, vue dans le détail comme nous en avons fait l'analyse ce matin, parce que c'est vrai que chaque mot compte, chaque verset a sa raison d'être, et de voir en effet, eh bien, comment l'adversaire tisse dans la vie des enfants de Dieu, de ceux qui sont chargés en responsabilité en particulier, qui ont reçu dons et privilèges, eh bien, de voir que l'œuvre de l'adversaire, c'est tout simplement de nous ligoter. Et il le fait d'une manière tellement subtile sur le temps. Et lorsque nous voyons les choses, ou nous apercevons que les choses sont arrivées au paroxysme, alors à ce moment-là, nous pensons que nous allons nous en tirer comme une autre fois, comme ça s'est toujours passé. Et là, à ce moment-là, nous apercevons que il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, puisque lorsque nous cessons de mettre notre confiance humblement dans la personne de Jésus, dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, eh bien nous apercevons, Seigneur, que nous avons tout perdu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Fasse en sorte, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions en tirer leçon. Fais-nous grâce, Seigneur, et de considérer que nous ne sommes pas forts. C'est pas parce que nous avons des décennies de vie chrétienne. Ce n'est pas parce que nous avons une consécration, parce que Samson était consacré aussi. Et que nous avons fait des exploits, que nous avons fait des expériences extraordinaires, que nous avons un vécu avec Dieu, que finalement, jusqu'au bout, eh bien, nous avons besoin de dire, Seigneur, je viens devant toi dans ma faiblesse. Je me sens petit. Peut-être, dans certaines choses, je peux considérer que je suis, en effet, en équilibre. Et puis, dans certaines autres choses, eh bien, je mesure ma faiblesse. Seigneur, je te rends grâce de ce que Paul a écrit dans Romains, dans ce chapitre 7, que un homme comme Paul, qui était un géant de la foi, pouvait dire, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Eh bien, Seigneur, tu nous parles à travers tout cela, et tu nous donnes la grâce de tenir compte de ces instructions, afin que véritablement, notre vie aille jusqu'au bout. Nous pouvons imaginer que Samson, eh bien, au moment où il a écroulé le temple de Dagon, lorsqu'il a poussé les colonnes, eh bien là, il a prié Dieu. Et Dieu l'a exaucé tout à nouveau, comme dans le passé, comme dans le temps. Mais il y a laissé la vie. Oui, il y a laissé tout simplement la vie. Et nous voulons croire, Père éternel, que c'est vrai, dans tes appels, dans tes vocations, nous pouvons vivre encore, ça c'est sûr, nous pouvons vivre notre foi, notre vie chrétienne, mais lorsque nous avons été appelés et que nous avons écrasé pour différentes choses, laissant l'orgueil peut-être, eh bien là, tenir place et lieu, à ce moment-là, Seigneur, eh bien nous pouvons véritablement perdre notre vocation terrestre, pas céleste, mais terrestre, en effet, Seigneur, pour anéantir ou neutraliser, Seigneur, ce que tu nous as donné pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Merci, Seigneur, de ce que tu nous enseignes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.